de la vie de saint Paul, sa conversion. Sur la route de Damas, alors que Saul est habité par le funeste dessein de martyriser les chrétiens, le Christ ressuscité se manifeste à lui. Il est saisi par le Christ vivant, à tel point que pour lui, désormais, vivre, c'est le Christ. La grande lumière qui l'enveloppa de sa clarté n'est pas qu'un beau rayon de lumière du Moyen-Orient, mais c'est une véritable illumination, une infusion de toute la révélation. Ce qui lui était jusqu'alors caché se révèle à lui en pleine clarté. Il lui est donné, de manière surnaturelle, tout ce qui lui permettra d'annoncer le Christ mort et ressuscité, avant même de rencontrer les apôtres, témoins directs de ces événements. Il devient ainsi lui-même apôtre par la transmission céleste, surnaturelle, des vérités de la foi. Oui, Paul alla dans le monde entier proclamer l'Évangile. Il expulsa des démons, il prit sur l'île de Malte une vipère en main sans en ressentir aucun mal. Il imposa les mains à des malades. Il proclama l'Évangile. Mais avant de le proclamer, il le reçut. Il le reçut de cette lumière céleste qui l'enveloppa sur le chemin de Damas. Et nous sommes, nous-mêmes, frères et sœurs, sur ce chemin de Damas, ce soir, ces jours de la Neuvaine. C'est un chemin pour nous, un chemin de conversion, un chemin d'illumination. Nous sommes nous aussi en chemin, nos destinations, bien sûr, sont diverses. Elles ne s'appellent pas Damas, me direz-vous. Nos desseins sont variés. Il ne s'agit peut-être pas de persécuter des chrétiens, je l'espère. Mais pourtant, entendre bien Jésus qui nous dit, comme à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Nos destinations méritent de toutes se convertir à la vérité de l'Évangile. Cette neuvaine, le chemin spirituel pour nous, pour moi, est un temps d'illumination, où il nous est donné de nous laisser être enveloppés par la lumière céleste qui descend sur nous dans ces jours. Elle veut infuser en nous l'Évangile de la divine enfance, l'Évangile du salut. La conversion de saint Paul, c'est la nôtre. J'ai la joie aussi d'ouvrir cette neuvaine ce soir, mais je dois dire que j'aurais aimé prêcher mercredi prochain, le 31 janvier, non pas tant à cause du thème de ce jour, je crois que c'est l'abbé Étienne qui prêchera, trouver sa place en l'Église, merveilleux thème. Mais c'est à cause de la date que j'aurais préféré vous parler, le 31 janvier. J'aurais eu beaucoup de joie à célébrer le bel anniversaire des 200 ans du Père Chocard, curé de Saint-Nicolas, né le 31 janvier 1824. Il y a donc juste 200 ans. Lequel a relancé en 1873 le culte de l'enfant Jésus. Vous vous souvenez sans doute, pour y avoir participé, que ce 28 décembre, nous avons célébré les 150 ans de la reprise du culte à l'enfant Jésus, date à laquelle, suite à la Révolution française et à la confiscation de l'ancien Carmel, le petit roi de Gloire, qui fut alors caché dans la famille d'une carmélite, reprit sa place ici même pour être présenté à la dévotion des fidèles. Ainsi, les murs de la chapelle de ce nouveau Carmel commencèrent à se couvrir ex voto et la dévotion instituée par Sœur Marguerite Marie Toussaint, Sainte Marguerite du Saint-Sacrement, pardon, se perpétua. Prière publique de la petite couronne tous les 25 du mois par Abaune, c'est Noël tous les mois, et puis bien sûr chaque année la grande nouvelle du 25 janvier au 2 février à laquelle nous participons. On dit volontiers que tout se perd et que tout est bouleversé en notre société. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, chers amis. Permettez-moi de noter que des trésors se conservent, des trésors vivants. Il y a plus de 30 ans, je prêchais cette nouvelle moi, reste que ce soir, nous sommes là. 1873. L'année où l'abbé Chantarne, mon illustre prédécesseur, a renoncé le culte à l'enfant Jésus. Permettez-moi de vous rappeler que 2 ans auparavant, en 1871, il avait lancé le pèlerinage national à Lourdes avec l'assistance de Madame de Lully, paroissienne de Clermont-Vergès, si peu de temps après les apparitions de 1858. Mais 1873, c'est une année deux fois bénie, car c'est dans cette même année que Sœur Marguerite du Saint-Sacrement est déclarée vénérable, le pape Pie IX ayant signé le 19 juin 1873 l'introduction de sa cause en béatification. Et on ne cesse de prier, n'est-ce pas, pour que cette cause aboutisse. 1873, une année trois fois bénie, car le 2 janvier, à Alençon, naquit Thérèse Martin, celle que nous appellerons la petite Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse Carmélite de Lisieux. Et c'est pour célébrer cet anniversaire, nous sommes réunis 650 ans après, que le pape François a écrit une exhortation apostolique, c'est la confiance. Car comme l'écrit Sainte Thérèse à l'une de ses sœurs, c'est la confiance, et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Ces paroles de Sainte Thérèse nous indiquent la mission qui est la sienne, nous conduire à l'amour, nous redonner confiance en l'amour de Dieu pour nous conduire à lui qui est amour. Tant de personnes ne croyaient plus et ne croient toujours pas aujourd'hui à l'amour de Dieu. Si nombreux sont-ils à ne pas lui faire confiance. La foi conduit à l'amour, et quand nous serons dans l'amour, nous n'aurons plus besoin de la foi, mais pour y aller, pour entrer en amour, il nous faut vraiment avoir confiance. Ces paroles de Sainte Thérèse, nous dit le pape François, disent tout. Elles suffisent à justifier que l'on ait déclaré Thérèse docteur de l'Église. Et c'est bien là tout le génie de la petite Thérèse, c'est de nous offrir un résumé, un condensé, un compendium de la foi. Vous voyez bien que lorsqu'un non-croyant, vient à nous, vous ne pouvez pas lui dire tout l'ensemble de la foi. Même le credo est trop long pour une première annonce. Alors, quelles seront vos premières paroles? Quelles seront ces quelques phrases qui ne trahiront pas l'Évangile et communiqueront vraiment la foi chrétienne? Qu'allez-vous dire? Les mots simples et confiants de Sainte Thérèse ont été reconnus par l'Église comme étant dignes des plus grands théologiens. Et je me remets à penser à cette illumination de Saint Paul sur le chemin de Damas. Demandons nous-mêmes cette illumination. Oui, Sainte Thérèse se situe au cœur de l'Évangile. Elle le sent battre, ce cœur, et elle veut vivre à son rythme. Le battement de ce cœur qui est tout amour devient le battement, le rythme de sa vie, qu'elle soit à la chapelle, en cellule ou au cloître, au réfectoire ou à la récréation, la pulsation est la même. Nous sommes bien témoins en nos vies que si un domaine de notre quotidien, par exemple le service ou le travail, la prière, la vie fraternelle, conjugale ou la vie familiale, quand un de ces domaines bat en arythmie, il y a quelque chose qui n'est plus vraiment l'évangélique, car tout l'évangile de la vie bat au même rythme de l'amour. J'entends bien que la vie des hommes se réalise dans divers domaines, mais rien, ni le travail, ni l'engagement social, ou économique, ou politique, ni l'éducation, ni les soins médicaux, rien ne devrait être étranger à l'amour. Tout est appelé à s'accomplir dans le battement du cœur de Jésus, car il s'est fait petit afin de faire battre son cœur en toute réalité humaine. La vérité évangélique ainsi est sainte. bontés de l'amour sauveur de Jésus. Permettez-moi d'insister sur cela. Dans la foi chrétienne, tout n'est pas central. Il y a des affirmations qui sont vraies, mais qui ne sont pas centrales pour autant, qu'il n'est pas nécessaire de présenter dans une démarche missionnaire. Le processus de la grâce, par exemple, de la grâce prévenante et de la grâce sanctifiante, les modalités de l'union en Jésus des deux natures humaines et divines, et tant d'autres questions. La mission s'intéresse à bien compris, nous demande d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Il a tant aimé. Il attend. L'essentiel est là. Tout est là. Et par conséquent, le centre du comportement humain, avant de se perdre dans les méandres de l'analyse morale, le centre, c'est la charité. La charité qui est la réponse de l'homme à l'amour inconditionnel de Dieu. L'apport de Sainte Thérèse à l'Église est donc synthétique. Elle permet d'embrasser il s'agit avant tout de l'amour de Dieu auquel répond l'amour de l'homme. Saint Paul lui-même était maître dans l'art de faire la synthèse du mystère chrétien. Il écrit aux Colossiens : dans votre vie, mettez l'amour au-dessus de tout, c'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Cette synthèse pourrait se résumer ainsi : le motif des mystères du salut, de l'incarnation et de la rédemption, c'est l'amour. Le moyen, l'opération par laquelle ces mystères se réalisent, s'accomplissent, c'est l'amour. Le fruit de ces mystères, c'est-à-dire le bien qu'ils procurent pour ceux qui sont sauvés, c'est l'amour, c'est de pouvoir aimer. Oui, c'est par amour que Dieu nous a créés, c'est par amour qu'il nous a sauvés, et c'est en aimant qu'il nous sauve. En nous donnant sa vie par amour et en nous sauvant, il nous donne la capacité d'aimer comme il nous a aimés. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, acte d'amour suprême, afin que quiconque croit en lui obtienne la vie éternelle, qui consiste à aimer en toute chose, quand Dieu qui est amour se donne. Prenez bien, les amis, et je le redis, l'amour est le motif, l'amour est premier, il est la raison de tous les mystères chrétiens. Dieu t'aime, écrit Sainte Thérèse, Dieu t'aime tellement qu'il t'a donné Jésus. Et elle confie par ailleurs, il n'a pas attendu que je l'aime beaucoup, mais il a voulu que je sache comment il m'avait aimé d'un amour d'ineffable afin que maintenant je l'aime à la folie. L'amour est moyen. Comment Jésus a-t-il aimé ses disciples? Et pourquoi les a-t-il aimés? Se demande Sainte Thérèse. Il veut les voir régner avec lui dans le royaume de son Père. Et pour leur ouvrir ce royaume, il veut mourir sur une croix. Car il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Par ailleurs, Sainte Thérèse écrit que le propre de l'amour est de s'abaisser. Et ainsi, l'enfant qui est tout petit lui permet de s'abaisser au plus bas. Donc, n'ayons pas peur d'être des enfants. Ainsi, l'amour de Jésus se révèle aussi bien dans l'âme la plus simple, qui ne résiste pas à la grâce, que dans l'âme la plus sublime. C'est par l'amour. Si l'amour est le motif, si l'amour est le moyen, l'amour est aussi le fruit des mystères, car l'amour produit l'amour. Sainte Thérèse, qui disait beaucoup Saint Paul, reconnaît que l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour. Que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Elle a compris que si ne se plaît que par l'amour. Aussi j'ai cherché, j'ai trouvé le moyen de soulager mon cœur en te rendant amour pour amour. Et cependant, cet amour, c'est Jésus lui-même. Oui, je le sens. Lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi. Frères et sœurs, j'ajouterai enfin que cette synthèse du mystère chrétien permet à Saint Thérèse de nous offrir une synthèse de la vie chrétienne. Oui, mon bien-aimé, dit-elle, voilà comment se consumera ma vie. Je n'ai d'autre moyen de te prouver mon amour que de jeter des fleurs, c'est-à-dire de ne laisser échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole, de profiter de toutes les petites choses et de les faire par amour. Sainte Thérèse est vraiment, n'en doutez pas, est vraiment docteur de l'Église, car elle a acquis cette science de l'amour, cette science qui